Ce matin, on continue notre série, l'Église contagieuse, alors qu'on est en train de se déconfiner. J'ai dédicacé 35 livres de plus cette semaine. Ça veut dire qu'il y a 35 personnes qui n'étaient pas encore revenues, mais là, hop, oh, qui reviennent cette semaine à coup de 30. Comme ça, on va y arriver là, d'ici une dizaine de semaines. Tout le monde devrait être revenu par la grâce de Dieu. Je fais des blagues, mais pour de vrai, j'en ai dédicacé 35 de plus. Donc, c'est encourageant. On est en train de revenir tranquillement. Écoutez, on a pensé que c'était approprié de faire une série intitulée « L'Église contagieuse » qui vise vraiment à exposer, à faire connaître les couleurs de l'Église de l'Espoir et de l'Église évangélique baptiste Sorel-Tracy. Donc, quelles sont nos couleurs à nous comme Église alors qu'on, pendant le confinement, on avait toutes sortes de ressources sur le web, beaucoup d'excellentes ressources d'ailleurs. D'autres, évidemment, ça prend du discernement, mais il y a quand même beaucoup de bonnes ressources. Et qui sommes-nous comme Église? Quelles sont nos couleurs à nous comme Assemblée? Et donc, on a commencé cette série-là en voyant plusieurs choses. On a parlé du fait, premièrement, qu'on croit vraiment à l'Église locale. On croit que l'Église universelle, l'épouse de Christ, s'incarne localement et que chaque chrétien est appelé à s'attacher à une Église locale littéralement. Maintenant, cette Église-là est bâti sur la Bible, sur la révélation. On a vu ensemble que tout ce qu'on veut faire, tout ce qu'on veut croire, doit toujours être éclairé, instruit par la parole. Donc, c'est pour ça qu'ici, à l'Église de l'Espoir, normalement, on est en train de prêcher à travers des livres de la Bible. On a hâte de retourner les prédicateurs ici, juste dans un livre, dans Ésaïe, dans Jean, puis exposer Jean, parce que la Bible doit être au centre. C'est pour ça qu'on a des plans de lecture de la Bible. C'est pour ça qu'on a des cours bibliques pour étudier la Bible, parce que c'est là que Dieu nous parle. C'est la révélation de Dieu. Qu'est-ce qu'on a vu ensuite? On a vu ensemble l'idée que pour devenir chrétien, il faut passer par une expérience personnelle, individuelle, qu'on va parler, on va appeler la conversion ou la nouvelle naissance. Et donc, c'est quand une personne, quand un individu expérimente la conversion ou la nouvelle naissance, c'est un miracle personnel qu'il vit. C'est un moment où il y a une collaboration mystérieuse entre Dieu et tout ton être. Puis tu adhères, tu crois dans l'œuvre que Jésus-Christ a fait à la croix en ta faveur. Ça ne devient plus comme un principe pour l'Église en général, ça devient très, très, très personnel. Et les Écritures nous disent qu'à ce moment-là, quand tu places ta foi en Jésus, quand tu te détournes de, disons, une vie dirigée par toi pour aller vers une vie dirigée par Christ, par sa parole, à ce moment-là, l'Esprit-Saint vient vivre en toi, t'expérimente la nouvelle naissance. C'est comme ça qu'on devient chrétien. On va à l'Église soit pour découvrir la bonne nouvelle de l'Évangile, on va à l'Église parce qu'on a découvert la bonne nouvelle de l'Évangile, on est chrétien, mais on ne devient pas chrétien automatiquement parce qu'on va à l'Église. Il faut passer par cette expérience-là de la nouvelle naissance. Et donc, on continue dans notre série. On a vu ensuite de ça l'adoration avec le pasteur Michel Vincent. Il a fait un super beau travail pour nous présenter qu'est-ce que c'est un adorateur selon nous. C'est quelqu'un qui découvre Dieu dans la parole. C'est là que notre cœur est nourri d'adoration. Puis ensuite de ça, on va l'exprimer avec tout notre être. Certains vont être plus réservés, certains vont être plus exaltés, mais c'est vraiment tout notre être qui est saisi. Donc, il va y avoir plein d'émotions, il va y avoir, notre volonté est affectée, mais tout ça vient d'une révélation, ça vient de la parole de Dieu. Ce n'est pas premièrement un sentiment, c'est premièrement une connaissance dans la parole qui vient bouleverser tout mon être, me transformer, qui va amener des décisions, qui va amener un sentiment, qui va amener de la louange. Ensuite de ça, qu'est-ce qu'on a vu la semaine dernière? La centralité de l'Évangile. Ça peut être un peu technique, ça peut être un langage un peu creux, un peu vide. Si pour vous, c'est comme une espèce de buzzword, une église centrée sur l'Évangile, je vous invite à aller écouter l'exposé de la semaine dernière. Je pense qu'il était concret, je pense qu'il était pratique. C'est ce que j'ai eu comme feedback, comme rétroaction de l'église. Donc, je vous invite à prendre le temps d'aller l'écouter vraiment pour comprendre, parce que c'est central à la vie de l'église, mais c'est central à la vie chrétienne, à tous les jours. Et donc, si pour toi, l'Évangile, la bonne nouvelle, c'est le moyen par lequel on devient chrétien, puis ça s'arrête là, écoute, tu ne peux pas être un chrétien heureux. Si l'Évangile s'arrête au début de ta vie chrétienne, c'est impossible que tu sois un chrétien heureux. Tu vas être un chrétien accablé par toutes sortes de fardeaux. L'Évangile doit être au centre de ta vie de tous les jours. Et donc, je t'invite à aller réécouter ça. Et puis, cette semaine, on aborde un nouveau sujet qui est une de nos couleurs ici. On parle de la congrégation, c'est-à-dire de l'Assemblée. Comment l'Église fonctionne-t-elle? L'Église, c'est la famille de Dieu. L'Église, c'est un joyau au milieu d'une société, toutes les églises locales qui sont là pour refléter l'Évangile. par nos relations ensemble, par notre manière de vivre ensemble, de prendre soin les uns des autres, on est appelé à refléter l'Évangile. Mais comment l'Église fonctionne? Comment est-ce qu'on s'organise? Où est l'autorité dans l'Église? Qui est-ce qui va diriger? Est-ce que l'Église, c'est une démocratie? Est-ce que l'Église, c'est une, peut-être vous avez jamais entendu ça, une théocratie? Comment ça fonctionne, l'Église locale? Tout groupe qui veut atteindre un objectif va s'organiser. Notre objectif à nous comme Église, c'est quoi? Glorifier Dieu, définitivement, hein? C'est ça notre but. Annoncer la bonne nouvelle de l'Évangile, prendre soin les uns des autres pour grandir comme disciples de Jésus-Christ. C'est tous des objectifs que Dieu nous donne dans sa parole. Comment est-ce qu'on s'organise pour fonctionner? Et on va voir ça dans l'Église, puis on va voir le rôle de ceux qui sont appelés à diriger l'Église, mais de toute la congrégation aussi. Chacun des membres de l'Église, chaque personne qui a décidé de faire de cette Église-ci son Église locale. Et c'est vraiment un sujet qui n'est peut-être pas comme, vous dites, c'est pas comme super cool comme sujet ce matin, ça a de l'air technique, mais en même temps, c'est important pour deux raisons. C'est vraiment important pour deux raisons. Première raison, la Bible nous enseigne là-dessus. Dieu nous enseigne sur comment doit fonctionner l'Église locale. Ça doit être important puisque Dieu en parle. Deuxièmement, c'est important parce qu'on a un grand mandat qui est de refléter l'Évangile. Et si vous êtes familier avec les églises évangéliques, vous savez que bien, des fois, ce n'est pas facile d'être en église. Si vous faites partie d'une famille, vous savez que des fois, ce n'est pas facile d'être en famille. Et donc, on veut être un beau témoignage de l'amour de Dieu. Et donc, on doit aller vers la parole pour savoir comment l'Église doit s'organiser pour fonctionner. C'est donc un sujet super important pour que nous, on ait du plaisir à être ensemble, mais surtout que cette joie-là, cet amour-là qui est au milieu de nous reflète vraiment l'Évangile de Jésus-Christ lorsque les gens de l'extérieur entrent en relation avec nous, avec l'Église de Christ. On va prier ensemble, on va aller dans la parole de Dieu, puis on va aller voir qu'est-ce que Dieu a à nous enseigner sur l'Église locale. Père éternel, on vient dans ta sainte présence ce matin. Merci Seigneur pour ce bâtiment, merci même pour l'air climatisé qui peine à évacuer toute l'humidité, toute la chaleur. Merci pour le plaisir de se retrouver ensemble, Seigneur, pour les chants de louange qu'on peut faire monter vers toi. Seigneur, on te demande de venir nous enseigner ce matin. Viens nous parler de ton Église, de sa beauté. Viens nous émerveiller par cette communauté que tu crées autour de Jésus-Christ, autour de l'Évangile. Cette communauté dans la grande culture, dans la grande société, cette petite communauté qui est là pour briller, pour refléter vraiment la beauté de l'Évangile de Jésus-Christ. Viens nous apprendre à vivre ensemble comme une Église, Seigneur, selon ta parole, afin que ton nom soit glorifié parmi nous. C'est en Jésus-Christ qu'on te prie. Amen. On va écouter la lecture de la parole de Dieu.
Bonjour. Alors, deux passages ce matin pour ce sujet. Le premier dans Actes, où Paul parle aux anciens. Et le deuxième, dans l'épître de 1 Pierre, où Pierre parle à l'Église. Alors, Actes, chapitre 20, versets 25 à 32. Et maintenant, voici, je sais que vous ne verrez plus mon visage, vous tous, au milieu desquels j'ai passé en prêchant le royaume de Dieu. C'est pourquoi je vous déclare aujourd'hui que je suis pur du sang de vous tous, car je vous ai annoncé tout le conseil de Dieu sans en rien cacher. Prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque pour paître l'Église de Dieu qu'il s'est acquise par son propre sang. Je sais qu'il s'introduira parmi vous, après mon départ, des loups cruels qui n'épargneront pas le troupeau et qu'il s'élèvera du milieu de vous des hommes qui enseigneront des choses pernicieuses pour entraîner les disciples après eux. Veillez donc, vous souvenant que, durant 3 années, je n'ai cessé nuit et jour d'exhorter avec larmes chacun de vous. Et maintenant, je vous recommande à Dieu et à la parole de sa grâce, à celui qui peut édifier et donner l'héritage avec tous les sanctifiés. Maintenant, la première épître de Pierre, au chapitre 2, les versets 9 à 12. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple et qui maintenant êtes le peuple de Dieu. Vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde et qui maintenant avez obtenu miséricorde. Bien-aimés, je vous exhorte, comme étrangers et voyageurs sur la terre, à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Ayez au milieu des païens une bonne conduite, afin que, là même où ils vous calomnient, comme si vous étiez des malfaiteurs, ils remarquent vos bonnes œuvres et glorifient Dieu au jour où il les visitera.
Merci, Esther. Jean 13, 35. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. C'est tellement un beau verset, hein? C'est comme une vision parfaite de l'Église, idyllique de l'Église. C'est inspirant. Maintenant, si c'est la première fois que vous venez dans une Église évangélique, là, j'ai comme scanné vite, je ne pense pas qu'il y en a beaucoup. Vous connaissez l'Église. Alors, je vais faire un sondage maison, ça va vous demander un peu de courage. Qui a déjà assisté à des conflits majeurs dans une Église locale? Ma gang de monde. Aïe, aïe, vous allez à des plus belles églises que moi? La vérité, c'est que l'Église, des fois, souffre et se fait souffrir, hein? À l'intérieur de l'Église même. On a des accrochages, il y a des situations, il y a des gens qui s'égarent, qui sont en train de s'égarer loin de la foi, on veut aller les ramener, on veut prendre soin d'eux. Il y a toutes sortes de choses qui se passent. Des fois, il y a des leaders, des pasteurs qui tombent dans le péché. Un scandale dans l'Église, à chaque année, on en a dans les journaux. Les médias sont prompts à les remarquer, n'est-ce pas, puis à les afficher. Mais c'est la vérité, c'est qu'il y en a dans les églises locales. Alors, comment est-ce qu'on fait comme Église pour vivre ce beau verset-là? C'est à l'amour que vous avez les uns pour les autres qu'ils sauront que vous êtes mes disciples. On veut absolument qu'en regardant l'Église de l'Espoir, en regardant l'Église Sorel-Tracy, lorsque les gens de l'extérieur découvrent une église locale, découvrent qu'on est des disciples de Christ. Que ce soit quelque chose d'inspirant, que ce soit un parfum, quelque chose de beau. Alors voici comment je résumerais l'exposé de ce matin. Une église locale en santé est la plus belle expression de l'Évangile sur la terre. C'est vraiment ça que je crois. La somme de nos parties lorsque nous fonctionnons comme Dieu nous le commande dans sa parole est plus belle et plus grande encore que chacun d'entre nous. Notre témoignage individuel ne pourra jamais être aussi puissant et aussi beau que lorsque l'Église ensemble est en train de vivre ça, parce qu'à travers toutes nos imperfections, tous nos péchés personnels, quand l'Évangile brille au milieu de ça, c'est un témoignage puissant. C'est la plus belle expression de l'Évangile sur la terre. Une relation saine entre les pasteurs de l'Église et la congrégation, c'est-à-dire l'Assemblée, manifeste la beauté de l'Évangile. Alors, grande question ce matin, où se situe l'autorité dans l'Église locale? Où se situe l'autorité dans l'Église locale? Tout groupe qui veut fonctionner doit quelque part avoir une direction qui va se donner. Où se situe l'autorité dans l'Église locale? Bien, c'est Jésus qui dit dans Matthieu 16, verset 18, « Et moi, je te dis, » donc c'est Jésus qui parle, « que tu es Pierre et sur ce roc, je bâtirai mon Église et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. » Alors, premièrement, qu'est-ce qu'il dit? Jésus dit que c'est lui qui va bâtir son Église. Donc, en définitive, l'autorité, c'est Jésus qui l'a, ça c'est clair. Maintenant, après, concrètement, comment ça se passe? Bien, pendant longtemps, l'Église catholique romaine, par exemple, pour donner un exemple, il y a différentes formes d'Église. L'Église catholique romaine a compris de ce verset-là qu'il avait été donné le mandat à l'apôtre Pierre d'être celui qui allait diriger toutes les églises sur la terre. Et comment est-ce que ça s'est transmis? Bien, ça s'est transmis d'héritier en héritier de l'apôtre Pierre qui s'appelle le pape. Et donc, dans l'Église catholique romaine, l'autorité ultime se trouve entre les mains du pape dans l'Église. Et donc, lui va travailler avec tous les évêques. Et lorsque le pape parle dans une déclaration formelle, c'est parole de Dieu. Ça a littéralement la même autorité que la parole de Dieu, d'accord? Ça, c'est leur compréhension. Et puis est venue la grande réforme protestante, où il y a eu vraiment un retour vers les Saintes Écritures, au 16e siècle, la première chose qu'on a fait, c'est qu'on a commencé à traduire la Bible dans la langue du peuple, et donc tout le monde pouvait commencer à étudier la Bible. On a arrêté de faire des messes en latin, admettons, dans les églises protestantes, mais on l'a fait dans la langue du peuple, faisant appel à l'intelligence de chacun dans la salle. Et là, on a fait un retour vers les Écritures. On est retourné vers les Écritures, puis on a dit, non, ça ne semblait pas être comme ça dans le Nouveau Testament. Ça ne semblait pas être comme un homme qui est responsable de toutes les églises à travers la terre, puis qui a pleine autorité. Non, l'autorité semble être avec Jésus. Et puis, en fait, l'autorité se trouve dans la parole de Dieu. Et donc, ce matin, ce que je vais faire, c'est que je vais vous présenter une espèce de prisme, d'accord? Vous allez voir, ça sonne un peu technique, mais en même temps, quand on voit comment ça se met en œuvre dans la vie de l'Église, c'est vraiment beau. Alors, dans les Écritures, on voit qu'il y a comme une espèce de triangle où se situe l'autorité pour diriger l'Église. C'est premièrement Christ et sa parole. Alors, comme je l'ai dit tantôt, dans Matthieu 16, Jésus dit, « Je te dis que tu es Pierre, sur cette pierre, je bâtirai mon Église. » L'autorité absolue dans toutes les églises sur la terre, c'est Jésus-Christ. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? C'est l'épouse de Christ, c'est lui qui est le chef de l'Église, c'est lui qui dirige l'Église. Maintenant, comment est-ce qu'il le fait? Il le fait à travers sa parole. Dans Éphésiens 2, verset 20, on lit, « Et vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. » Et ici, il fait allusion à ce que les apôtres nous ont laissé, c'est-à-dire la parole de Dieu. Donc, les apôtres nous ont communiqué tout ce que Jésus leur avait enseigné, et puis avec des aides, ils ont rédigé ce qu'on a, le Nouveau Testament, et puis on a l'Ancien Testament. Et donc, c'est sur la parole, sur le fondement de l'enseignement des apôtres qu'ils ont reçu eux-mêmes de Jésus, qu'est bâti l'Église. L'autorité ultime dans l'Église locale, c'est Jésus-Christ à travers sa parole. Et ça, c'est super important. C'est vraiment un retour vers les Écritures qui s'est passé au 16e siècle. À partir du 16e siècle, par exemple, pour le mettre de manière très, très concrète, dans l'Église catholique romaine, c'est quoi le centre de l'Église? C'est l'autel. C'est la place où on fait le sacrifice, là où on va donner l'Eucharistie, d'accord? Le protestantisme, lorsqu'il est arrivé, il a dit, « Attends un petit peu, le sacrifice il a déjà été accompli par Jésus. Nous, c'est juste un mémorial qu'ils ont fait. On va mettre la parole au centre. » Et donc, si vous cherchez des temples protestants sur Internet, puis vous cherchez des images, c'était pas rare d'avoir littéralement, à la place de la colonne centrale, le pupitre pour prêcher. Et c'était une image pour dire, pas que le pasteur est celui qui dirige tout le monde, que celui qui expose la parole, celui qui enseigne la parole de Dieu, est en train de nous apporter l'autorité qui se trouve ici. Qu'est-ce qu'on fait comme Église? On se penche tous ensemble sur la parole de Dieu. C'est pour ça qu'on prêche par exposition. Et donc, où se trouve l'autorité dans l'Église locale? Elle se trouve en Jésus-Christ qui nous parle à travers sa parole. Ça, c'est là qu'est l'autorité ultime. Tout ce qu'on fait comme Église, lorsqu'on veut savoir, OK, qu'est-ce qu'on doit faire? Comment on doit fonctionner? Comment on devrait répondre à des questions sociales? Comment on doit agir? Comment on doit vivre ensemble? On va toujours ensemble se pencher, tous ensemble, sur la parole de Dieu. Puis on cherche les réponses là parce que l'autorité se trouve là. D'accord? Deuxième élément de mon prisme, c'est le collège des anciens. Alors, les apôtres établissaient dans les églises des hommes qui étaient appelés à enseigner. Je vais y revenir un peu plus loin, mais des hommes qui étaient appelés à enseigner la parole. Ils n'ont pas une autorité en eux-mêmes. Leur autorité repose sur la parole de Dieu. Et ils faisaient ça dans chaque église. C'est pour ça qu'on n'accepte pas l'idée qu'il y a un pape qui a une autorité sur toutes les églises à travers la terre. On lit par exemple dans Hébreux 13, 17, « Obéissez à vos conducteurs et ayez pour eux de la déférence. » Car ils veillent sur vos âmes dont ils devront rendre compte, qu'il en soit ainsi afin qu'ils le fassent avec joie. Et puis, dans Actes 20, personnellement, c'est un des versets qui m'inspire le plus pour mon travail à moi comme ancien ou comme pasteur. Actes 20, 28, « Prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque ou surveillant pour paître, qui paît, c'est le berger, pour paître l'Église de Dieu qui s'est acquise par son propre sang. » Donc, Paul va prendre à l'écart les pasteurs de l'Église d'Éphèse et puis il leur dit, « Dieu vous a établi comme surveillant sur ce petit troupeau-là. » Mais c'est son Église, c'est lui qui se l'est acquise au prix de son sang. Vous êtes des bergers pour paître cette Église-là. Et donc, ce que les apôtres faisaient, au fur et à mesure qu'il y avait des églises qui commençaient à être établies un peu partout dans l'Empire romain, ils mettaient en place un collège d'anciens. Je reviens sur l'idée de collège d'anciens, mais ils mettaient en place des pasteurs. Et donc, qu'est-ce qu'on a? On a Jésus-Christ et sa parole. Ensuite de ça, on a le collège des anciens, des pasteurs, des évêques, j'y viens dans quelques instants, qui sont là pour être des espèces de médiateurs de la parole. On est là pour diriger l'étude de la parole. En somme, c'est ça. Et donc, je le dis souvent à l'Église ici, si vous entendez des enseignements qui ne sont pas bibliques, bien, vous êtes invités à venir nous poser des questions, à dire, écoute, j'ai l'impression que ce n'est pas ça que les Écritures enseignent. Peut-être que vous êtes trompé, peut-être que vous avez manqué quelque chose. Parce que l'autorité ne se trouve pas fondamentalement chez les pasteurs. Elle se trouve dans la parole de Dieu. Et c'est dans la mesure où on enseigne la parole de Dieu, justement, véridiquement, que l'Église est appelée à suivre cette direction-là, d'accord? Et quel est le troisième élément de mon prisme? C'est la congrégation des saints. Dans 1 Pierre 2, versets 9 et 10, on lit ceci. « Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple et qui maintenant êtes le peuple de Dieu. » Je reviens au début du verset. « Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal. » Quand on arrive dans le Nouveau Testament, il y a quelque chose de fondamental qui change par rapport à l'Ancien Testament. Dans l'Ancien Testament, dans le peuple d'Israël, une tribu avait été choisie, n'est-ce pas? Et de cette tribu-là devaient sortir tous les prêtres qui allaient servir au temple. Quand on arrive dans le Nouveau Testament, Christ nous dit, non, chaque personne qui va passer par la nouvelle naissance. La nouvelle naissance, c'est quoi? C'est être né de nouveau par l'Esprit-Saint. Chaque personne va recevoir l'Esprit-Saint. Et donc, d'une certaine manière, chaque chrétien devient un prêtre, devient un intercesseur qui peut aller dans la présence de Dieu. Et donc, dans une église évangélique, dans une église qui cherche à honorer les Écritures, vous ne venez pas tous vous confesser aux prêtres. D'accord? Ça ne fonctionne pas comme ça parce qu'on est tous des prêtres. Et donc, qu'est-ce qu'on fait? Je ne vais pas bien, je l'ai dit à ce moment-là, je ne vais pas bien, c'est lourd dans mon cœur. Je m'en vais voir un frère, je m'en vais voir une sœur dans l'église. Je dis, écoute, j'ai besoin de te confesser quelque chose qui est sur mon cœur pour que tu m'accompagnes là-dedans et que je vienne me reposer dans l'Évangile. Je peux le faire avec tous les frères et sœurs dans l'église. D'accord? Je ne vais pas aller voir le curé. Ce n'est pas juste lui qui a accès. Il n'y a pas un accès spécial parce qu'on est tous, si on a cru en Jésus-Christ, des prêtres, des sacrificateurs. Tous, nous formons un sacerdoce royal. Et donc, je vais revenir aussi à ça un petit peu plus loin, mais ce qu'on voit dans le Nouveau Testament, c'est que Christ est à la tête, les anciens sont appelés à diriger, mais ils vont toujours le faire en allant chercher l'assentiment de la congrégation. D'une manière ou d'une autre, on va aller vers l'Église puis on va dire, écoutez, on a l'impression qu'on est en train de discerner la direction de Dieu pour notre assemblée. Maintenant, on vient vers vous pour voir si Dieu vous dit la même chose qu'à nous. C'est ça qu'on fait. Littéralement, c'est ça qu'on fait. Lorsqu'on demande à l'Église de voter, c'est ce qu'on fait. Lorsqu'on fait une réunion de membres, puis on dit, par exemple, lorsqu'on a décidé d'acheter le bâtiment ici, c'est concret, là, mais c'est quelque chose, c'est énorme. Lorsqu'on adopte un budget, lorsqu'on va reconnaître des nouveaux anciens, on va devant la congrégation, puis on dit, on pense discerner la volonté de Dieu, on pense que tel ou tel, vraiment, il est qualifié comme ancien. Est-ce que vous avez tous la même conviction avec nous? Puis on demande l'amen de l'Église. Et c'est vraiment dans ce triangle-là qu'on va voir la beauté du fonctionnement d'une Église, où on reconnaît tous qu'il n'y a personne ici sur la terre qui a l'autorité de Christ. Christ n'a pas délégué son autorité à un pape. Son autorité se trouve dans sa parole, et à travers sa parole, à travers la congrégation, il va établir des pasteurs, des anciens, des évêques, qui sont appelés à être des espèces de médiateurs de la parole. On enseigne la parole. Puis ensemble, en Église, on discerne dans la parole ce que Dieu veut que nous fassions. Puis on va devant l'Église, puis on dit, écoutez, il nous semble à nous, les anciens, que Dieu nous appelle là. Penchez-vous avec nous sur les Écritures et dites-nous si vous voyez la même chose, parce que vous avez tous l'Esprit-Saint comme nous. Vous n'êtes pas tous appelés à diriger, mais vous avez tous l'Esprit-Saint comme nous. Amen? C'est ça l'Église. Et lorsque ça se passe bien, lorsque cette relation-là, on a vraiment quelque chose d'absolument sublime qui se passe, qui n'est pas une démocratie. Hein? Je vais tenter d'y revenir un petit peu tout à l'heure. D'accord? Donc, assurez-vous que l'Église locale que vous choisissez, à laquelle vous choisissez de vous associer, garde la Bible au centre, que Jésus-Christ est l'autorité, qu'on s'appuie sur la révélation de la parole de Dieu et qu'il y a ce rapport entre les pasteurs et toute la congrégation où on va honorer le fait que l'Esprit Saint est dans le cœur et dans l'esprit de chacun. Maintenant, parlons quelques instants des pasteurs, des diacres. Alors, dans le Nouveau Testament, on voit deux offices, d'accord? Les pasteurs anciens évêques, je n'ai pas le temps d'élaborer beaucoup, mais ce sont vraiment trois synonymes dans le Nouveau Testament. Pasteur qui parle d'être un berger, prendre soin du troupeau. Ancien qui parle peut-être plus de sagesse, d'expérience dans la foi. Ça ne veut pas dire que c'est un vieux, même si je m'en viens un vieux. J'ai commencé jeune à être un vieux ou quelqu'un qui était reconnu comme quelqu'un qui connaît la parole de Dieu. Ça fait déjà 25 ans que je suis un ancien, donc je suis un vieux dans le Seigneur peut-être à quelque part. Et puis évêque qui veut dire surveillant, qui veille sur l'Église, d'accord? Dieu établit des collèges d'anciens, pasteurs, évêques dans chacune des églises. J'y vais rapidement dans Actes 14, 22. Voici ce qu'on lit, fortifiant l'esprit des disciples. C'est-à-dire en les encourageant, les exhortant à persévérer dans la foi et disant que c'est par beaucoup de tribulations qu'il faut entrer dans le royaume de Dieu. Je m'excuse, ce n'est vraiment pas le verset que je voulais. Dans Tite 1, 4. À Tite, mon enfant légitime, en notre commune foi, que la grâce et la paix te soient données de la part de Dieu notre Sauveur. J'ai décalé tous mes versets. Je suis désolé. Je vais le corriger pour le deuxième service, vous irez l'écouter. Dans le verset suivant, si je ne me trompe pas, Paul dit à Tite, « Je t'ai laissé en place pour établir dans chacune des églises des anciens, un collège d'anciens. » Et c'est quoi le mandat? Je vais venir à la notion de collège dans un instant. C'est quoi le mandat des anciens, des pasteurs, des bergers? Bien, voici ce qu'on lit, j'espère avoir le bon verset. Dans 1 Pierre 5, versets 2 et 3, « Paissez le troupeau de Dieu qui est sous votre garde, non par contrainte, mais volontairement, selon Dieu, non pour un gain sordide, mais avec dévouement, non comme dominant sur eux, sur ceux qui vous sont échus en partage, mais en étant les modèles du troupeau. » Et puis dans Éphésiens 4, voici ce qu'on lit, versets 11 et 12. « Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Et quel est leur but, quel est leur rôle? Pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. » Donc, le rôle des anciens, des pasteurs, des évêques, c'est d'instruire le peuple de Dieu afin de nous amener à maturité, perfectionner les saints, perfectionner l'Église, nous amener vers la maturité pour que l'Église fasse l'œuvre du ministère. Vous avez tous, si vous avez cru en Jésus-Christ, l'Esprit Saint, et nous faisons tous l'œuvre du ministère. C'est tellement trompeur comme langage quand on dit qu'un pasteur va dire « Moi, je suis dans le ministère. » C'est vrai, mais en même temps, si ça veut dire que toi, tu n'es pas dans le ministère parce que tu n'es pas rémunéré, parce que tu es en train de servir, c'est vraiment faux. Parce que nous sommes là pour équiper l'Église à faire l'œuvre du ministère. L'Église, c'est tous les membres qui sont en train de servir. Et comment est-ce qu'on dirige l'Église? C'est à travers un collège d'anciens. J'aimerais ça qu'on puisse afficher une photo de notre collège d'anciens, une image de notre collège d'anciens. Voyez-vous, tous ces frères-là forment le collège des anciens. Là, certains d'entre vous sont en train de se demander, OK, pourquoi est-ce qu'il n'y a pas des sœurs qui sont là? Ça, c'est le sujet de la semaine prochaine, d'accord? Ici, à l'Église de l'Espoir, on est complémentariste. On n'est pas égalitarien et on pense que c'est ce que les Écritures nous enseignent, mais c'est le sujet de la semaine prochaine. J'y reviens la semaine prochaine. Ça, c'est le collège des anciens, d'accord? Et donc, tous ces hommes-là sont devant Dieu égaux. Maintenant, puisque j'ai dit tantôt que l'autorité se trouve dans la parole de Dieu, ben c'est moi qui parle le plus souvent en avant, qui enseigne la parole de Dieu. C'est sûr que je vais peut-être avoir plus d'influence. J'ai ce privilège-là. On m'a mandaté d'avoir ce mandat-là principalement. Mais les anciens, lorsqu'on s'assoit ensemble, le collège, on travaille en collégialité. Devant Dieu, les frères qui sont là ne sont pas là pour suivre ma direction. On est là pour discerner ensemble la direction de Dieu pour son Église. C'est un collège d'anciens. Et dans une assemblée à la grosseur de notre Église, 400 personnes, Il nous en manque encore quelques-uns. Dieu en appelle plusieurs encore dans notre Église à être anciens parce qu'il faut veiller sur l'Église, il faut prendre soin de l'Église, il ne faut pas être l'Église. Alors peut-être que Dieu t'appelle, si tu es un frère qui aspire à cette charge-là, viens voir les anciens. Dis, j'aspire à ça, j'aimerais être formé pour ça, je crois que Dieu m'appelle à ça. Et comme Église, on est appelé à implanter d'autres Églises locales. C'est un autre sujet qu'on va voir un peu plus loin dans la série. Et donc, on va vouloir envoyer des collèges d'anciens, établir des anciens dans les Églises. Donc, il y a les anciens, leur mandat à eux, c'est quoi? C'est d'enseigner, soigner, conduire l'Église locale. Ça, c'est le mandat des anciens. Et il y a les diacres et les diaconesses. Donc, je touche un mot très rapidement sur les diacres et diaconesses. Le mot diacre nous vient d'un mot grec, diakonos, qui veut dire service. Et donc, il y a deux offices dans l'Église, les pasteurs anciens évêques et les diacres et diaconesses. D'accord? Il y a donc des femmes qui sont diaconesses dans le Nouveau Testament. Et leur mot signifie service, serviteur. Et ce qu'on voit dans les Écritures, leur mandat n'est pas super clair. Mais ce sont des gens qu'on voit dans l'Église comme ayant de la maturité, il y a des qualifications spirituelles, et comme ayant vraiment des cœurs de serviteurs. Et ils viennent appuyer le travail des pasteurs, des anciens, des évêques dans la direction de l'Église. Ils viennent aider l'Église à se coordonner. Alors, vous voyez, on a beaucoup plus d'anciens que de diacres et de diaconesses. Imaginez tout ce qu'on fait reposer sur ces trois paires d'épaules-là. Maintenant, si vous les connaissez, vous savez que ces gens-là, ce sont des serviteurs. C'est des leaders. C'est des leaders, mais c'est des serviteurs. J'aimerais ça que les anciens qui sont dans la salle fassent juste se lever, s'il vous plaît. Puis ensuite, je reviens aux diacres et diaconesses. Les pasteurs, je vous demande de vous lever, s'il vous plaît. Luc, Michel, Miguel est derrière, Luigi est derrière, Joël est derrière, je ne sais pas s'il m'en manque. Vous avez quelques-uns des membres du Collège des anciens. Merci les frères, vous pouvez vous asseoir. Est-ce qu'on a des diacres, diaconesses ce matin? On en a un qui est en plein centre. Lui, il a une petite chambre au sous-sol. Sa femme le voit à peu près deux fois par année. C'est notre diacre du bâtiment, Denis Latour. Mais si vous connaissez Denis, vous comprenez c'est quoi un diacre, d'accord? Ce sont des espèces d'abeilles qui n'arrêtent pas de butiner, puis de servir, de travailler. C'est vraiment des serviteurs extraordinaires. Une bénédiction merveilleuse pour nous dans la direction de l'Église, vraiment. Alors, combien est-ce qu'on voudrait en avoir dans une Église comme la nôtre? Voilà. Et donc, vous avez le pasteur Luigi Pugliese en arrière, avec son petit masque, là, qui lui supplie Dieu, que Dieu appelle tous ces gens-là à venir mettre des visages ici. Des hommes et des femmes de Dieu qui vont se consacrer, et c'est lui qui est responsable de les former comme diacres et diaconesses. On a une nouvelle cohorte qui est en préparation pour être diacres et diaconesses de l'Église. Maintenant, j'avance, on continue. Donc, je vous encourage, si Dieu vous appelle à cette charge-là, je vous encourage à vous manifester et ça va nous faire plaisir de nous investir, de s'investir en vous pour vous former. Maintenant, avec la venue de Jésus-Christ, l'Esprit-Saint est donné à chacun des croyants et donc la congrégation des saints est formée. Dans Apocalypse, au chapitre 1, versets 5 et 6, voici ce qu'on lit. « À celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, et qui a fait de nous un royaume, des sacrificateurs pour Dieu son Père, à lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Qui a fait de nous un royaume, des sacrificateurs pour Dieu son Père. » Je vous ai lu tout à l'heure 1 Pierre 2, versets 9 et 10. « Vous êtes une race élue, un sacerdoce royal. » Et donc, ce qu'on voit dans le Nouveau Testament, c'est que chacun des chrétiens, tous ceux qui croient, reçoit l'Esprit-Saint. Puis dans le livre des Actes, là je vais vous inviter à aller lire attentivement, à étudier ça, c'est vraiment un beau passage. Au chapitre 15, alors que les églises étaient en train d'être établies un peu partout dans l'Empire romain, il y avait plein de nouveautés. Puis là, il y avait plein de non-juifs qui devenaient chrétiens. Puis là, ceux qui étaient juifs, qui avaient cru en Jésus-Christ, eux autres avaient toute leur tradition juive, puis tout l'Ancien Testament. Fait que là, il y avait un gros dilemme. Par exemple, excusez-moi, je vais être un petit peu cru ce matin. Les parents, vous allez avoir de l'enseignement à faire peut-être plus tard. Alors, un homme juif se faisait circoncire. Est-ce que les hommes non-juifs qui deviennent chrétiens doivent se faire circoncire? Question très pratique, je vous l'avoue, n'est-ce pas? Très concrète. Fait que une grosse question qu'il y avait dans l'Église, c'est est-ce que, dans le fond, quelqu'un qui n'est pas juif, qui devient juif, va devoir comme devenir juif, qui devient chrétien, va devoir devenir juif avant de devenir chrétien. Est-ce qu'il doit adopter toutes ces pratiques-là? Ou est-ce que tout ça, c'était finalement avant la venue de Jésus, puis ça va être différent après la venue de Jésus?
Puis là, l'Église était là, puis là, ça s'arrachait les cheveux, puis là, l'Église était divisée. On monte à Jérusalem, on s'en va faire un gros colloque sur la question. Le premier concile de l'Église, on dit, mais qu'est-ce que le Seigneur veut qu'on fasse avec ça? On va dans les Écritures, les apôtres commencent à discuter, on enseigne. Et pendant les conversations, l'Église est là. L'Église est présente. Et puis, les apôtres s'accordent pour dire, non, voici, on n'est pas appelé à tous retourner sous l'Ancien Testament. Nous sommes dans une nouvelle alliance. Puis là, les apôtres disent, qu'est-ce que vous en pensez, l'Église? L'Église dit, amen! Puis là, lorsque les missionnaires repartent avec des lettres pour aller mettre de l'ordre dans les églises, des lettres de la part des apôtres et de l'Église. La lettre est écrite au nom des apôtres et de l'Église. Donc, l'Église a donné son amen sur une des plus grandes questions théologiques qu'on a eu à vivre après le départ de Jésus. Et nous en déduisons que Dieu parle à travers sa parole, à travers les anciens et à travers la congrégation. C'est pour ça que comme Église, ici, à Sorel-Tracy, lorsqu'on a de grandes décisions à prendre, les anciens vont dans la prière, vont dans la parole, étudient la parole de Dieu, cherchent une conviction ensemble pour dire, on pense qu'on a discerné la direction de Dieu, vont devant l'Église, communiquent ça et viennent chercher le « Amen » de l'Église. Est-ce que vous êtes d'accord avec nous? Oui, nous sommes d'accord. Non, on pense que vous devriez retourner prier, les gars. Peut-être qu'il y a quelque chose que vous n'avez pas compris. Sérieusement, c'est comme ça que ça se passe. Et donc, vous êtes invités comme congrégation toujours à aller vers les passants. Il y a quelque chose qui vous préoccupe dans l'Église. Vous voyez quelque chose, puis vous dites, il me semble qu'on est en train de glisser ici. Il me semble qu'on est en train de négliger telle personne. Il me semble qu'il y a tel groupe dans l'Église, on n'est pas en train de prendre soin d'eux. Vous savez quoi? On n'est pas omniscients, nous autres, les pasteurs. On est juste des serviteurs, puis des fois, on est pris dans notre Bible, puis là, on se dit, OK, il faut enseigner la parole la semaine prochaine, j'ai 4 personnes à visiter cette semaine, il y a des gens à l'hôpital, puis là, on échappe. On oublie. Il y a des choses qu'on ne voit pas, on prend des faux plis. Mais peut-être que Dieu t'a montré quelque chose. Mets ça dans la prière. Va dans la parole, va voir un pasteur, viens le voir, viens lui dire, écoute, peux-tu prier là-dessus? J'ai l'impression qu'il y a quelque chose où on se trompe comme Église. Je ne sais pas combien de fois en 25 ans de ministère, hein, c'est l'Église qui m'a dit, hey Yannick, you, il me semble que je comprends que tu veux bien faire, puis tu aimes l'Église, puis tu te donnes, mais il y a quelque chose qu'on a manqué ici. Et ça se fait avec respect, ça se fait avec charité, ça se fait avec douceur, mais ça se fait avec la conviction que Dieu parle à travers toute la congrégation. Et c'est arrivé par moments qu'on avait une conviction au conseil. OK, on doit aller par là-bas. On commence à consulter dans l'Église. On ne fait pas toujours exprès pour tout de suite aller devant l'Assemblée puis dire oui, non, non. C'est pas super trippant quand tu travailles fort, puis là, l'Église se sent obligée de te dire « Non, les gars, retournez à votre table de travail. » En général, on va travailler avec les diacres, les diaconesses, les leaders. On dit « Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que ça fait du sens? On va communiquer. » Puis généralement, lorsqu'on va prendre un vote, vous allez voir, ça dit oui, mais c'est parce qu'on a travaillé avec toute la congrégation avant pour voir « Est-ce que la congrégation voit ce qu'on voit? » Et donc, c'est ça l'Église locale. C'est ça une congrégation. Il n'y a pas d'autorité humaine à l'extérieur de l'Église qui est au-dessus de cette assemblée. On fait partie d'une association, on en parlera aussi plus tard dans la série, mais c'est une association, ils n'ont pas d'autorité. Il n'y a personne à l'extérieur de cette congrégation qui a une autorité ici, sinon Christ, à travers sa parole, sous la direction des anciens qui sont là pour renseigner la parole avec l'amen de l'Église. Et j'aimerais inviter les musiciens à venir me rejoindre. Je vais terminer avec une dernière chose. Pendant que les musiciens viennent me rejoindre, qu'est-ce qui fait que ça fonctionne? Où ça ne fonctionne pas. C'est l'Évangile. C'est l'Évangile de Jésus-Christ. Voyez-vous, l'Évangile, c'est cette bonne nouvelle que Dieu nous voyait comme des pécheurs, des gens qui passent leur temps à s'écorcher, à se blesser, à s'accrocher, des gens qui offensent Dieu, qui s'offensent les uns les autres, puis envoyer son Fils Jésus-Christ mourir sur la croix pour des pécheurs, pour nous. Afin qu'on puisse être pardonné de nos péchés, qu'on puisse être réconcilié avec Dieu et réconcilié les uns avec les autres. Et donc, qu'est-ce qui va faire qu'une Église va être belle? Elle va être heureuse. C'est lorsqu'elle applique ces principes-là que je viens de vous exposer, mais qu'elle les applique par la puissance de l'Évangile. L'Évangile, c'est cette huile qui vient vraiment graisser ce moteur-là, qui fait que ça fonctionne bien, parce qu'il va y avoir des heurts. Il va y avoir des accrochages, il va y avoir des déceptions, il va y avoir des erreurs. Si ça fait plusieurs années que vous êtes à l'Église, vous m'avez déjà entendu demander pardon à toute la congrégation, soit en mon nom personnel parce que j'estimais que j'avais péché puis que ça avait fait mal à l'Église, ou parce que, au nom des anciens, parce que nous estimions. La dernière fois, je pense, c'est lorsqu'on a reconnu que nous devions grandir dans notre vie de prière et qu'on n'était pas encore les modèles qu'on devait être dans la prière. Et littéralement, on vous a demandé de nous pardonner de ne pas avoir été les modèles qu'on devait être, d'accord? Et donc, ça demande à la congrégation de prendre l'Évangile et de faire grâce. Et dans nos relations entre nous aussi, c'est l'Évangile qui doit demeurer au centre afin de voir cette belle Église où tu as l'autorité de Christ qui est là, à travers sa parole, les anciens, les pasteurs, les évêques, qui sont là pour donner la direction, et toute la congrégation qui s'assemble, qui met vraiment l'épaule à la roue, qui est là pour servir, faire l'œuvre du ministère sous la direction des anciens, assistés par les diacres et diaconesses. Ce que je vous invite ce matin, concrètement, je termine avec ça, je vous invite à prier. Priez pour que nous demeurions une église qui est établi sur la parole de Dieu. Priez ensuite de ça pour les pasteurs. Oui, c'est une charge. Par moments, elle est lourde, parce que Dieu nous a confié la responsabilité de prendre soin du troupeau. Et on s'inquiète comme des pères qui prennent soin de leur famille, comme des parents qui prennent soin de leur famille. On est préoccupé, on se dévoue, c'est vrai. Priez pour nous. Priez pour qu'on garde toujours une belle attitude dans notre service. Que lorsque l'Église, des fois, est dure à diriger, puis il y a de la critique, puis il y a des gens qui sont mécontents, puis il y a des gens qui viennent, puis là, ils disent « Ah, tu ne fais pas bien ton travail, tu es hypocrite », toutes sortes de conversations. Hein? C'est ça l'Église, c'est ça la vérité, c'est ça l'Église. Que Dieu nous donne d'être gracieux, d'être patient, d'écouter, de se remettre en question, d'être humble. Puis enfin, engagez-vous. Engagez-vous dans votre Église locale, sachant que vous, comme moi, comme nous, vous avez l'Esprit Saint de Dieu si vous êtes chrétien. Soyez participants de l'Église locale. Vous n'êtes pas là pour recevoir le ministère, vous êtes là pour faire le ministère en vous visitant les uns les autres, en vous appelant les uns les autres, en priant les uns pour les autres, en venant servir avec nos diacres diaconesses. Les diacres diaconesses sont toujours en train de dire « J'ai besoin de serviteurs, j'ai besoin de serviteurs, j'ai besoin de serviteurs. » Vous irez voir Denis, vous irez voir, écoutez, on a juste 3 diacres diaconesses, allez les voir s'il vous plaît, allez les appuyer, ils ont besoin d'aide. Mais engagez-vous dans l'église locale. Et si vous n'êtes pas membre, mais que vous êtes chrétien, devenez membre d'une église locale. Parce qu'il y a un moment où les pasteurs vont venir vous voir et vont dire « Est-ce que vous pensez qu'on a bien discerné la direction de Dieu? » Et ça, c'est réservé aux membres de l'Église. Évidemment, on ne va pas demander à quelqu'un qui est en visite un dimanche matin, on ne sait même pas s'il est chrétien, « Penses-tu qu'on est en train de bien diriger l'Église? » Je ne sais même pas si tu es chrétien. Mais quand tu deviens membre, je sais que tu t'attaches à cette assemblée, je sais que Dieu t'a confié à ces anciens-là, à nous, et je sais que toi, tu vas participer à édifier cette Église. C'est vraiment beau, l'Église locale. C'est un témoignage puissant, puis je vous dirais, avec tout ce qu'il y a de tension actuellement dans la culture, la société a besoin de voir de belles églises locales où l'Évangile est au centre, puis on apprend à fonctionner ensemble, à travailler ensemble. Et je peux vous le dire au nom des anciens, c'est vraiment une joie de diriger cette église-là. C'est vraiment une grâce. L'église n'est pas parfaite. Il y a des moments où c'est difficile, mais c'est vraiment une grâce de servir cette assemblée-là puis de servir avec ce beau collège d'anciens-là. On va aller ensemble dans la prière. Seigneur Jésus, ton église est belle. Elle est imparfaite, elle va juste être parfaite quand tu vas revenir, Christ. D'ici là, elle va rester imparfaite jusqu'à ton retour, Jésus. Mais elle est belle. Elle est belle, puis la ville de Longueuil, la ville de Sorel, les villes environnantes ont besoin de voir ces églises-là et d'en voir encore beaucoup d'autres, qu'on puisse en implanter d'autres, Seigneur. La société a besoin de voir ces communautés harmonieuses, où la grâce de l'Évangile règne au centre et on est capable de suivre ta parole, de diriger, de s'encourager, de se dévouer, Seigneur. Seigneur, t'appelles d'autres frères à être pasteurs dans cette congrégation. Parle à leur cœur, donne-leur le courage de se lever, de s'avancer pour être formés. T'appelles d'autres à être diacres et diaconesses, Seigneur. Tu appelles certains à s'engager pour devenir membres de cette congrégation et t'appelles chacun des membres à placer ses dons, ses talents au service les uns des autres. Tu donnes du discernement à chacun afin qu'ensemble, Seigneur, nous contribuons à l'avancement de ton royaume. Seigneur, j'aime ton Église. Qu'elle est belle, qu'elle est précieuse, Seigneur. On veut t'exalter ce matin. On veut te célébrer parce qu'elle n'est possible qu'à cause de toi, Jésus. Amen.